Faire. Le brave homme, il a eu force de proposition suffisamment importante pour qu'il nous serve de noyau dur dans nos raisonnements analogiques, dans la détermination des tâches prochaines de l'analyse, pour qu'on lui reproche pas tout. Bon, mais il faut savoir que Greil s'est quand même flanqué de types qui travaillent sur la logic of relevance. Il y a un noyau dur, des gens du genre de Belknap. Et il y a une bibliographie de base sur la relevance. Elle est intéressante parce qu'elle est connectée interthéoriquement avec les problèmes de la référence. Référence et relevance, ça commence à être très connecté intrathéoriquement dans la sémantique anglo-saxonne. Bon, là encore, Greil fait blard, mais...
Autre
point. Alors, ce qui m'intéresse dans vos enjeux théoriques propres, c'est, s'agissant de mon opposition de campagne à moi, entre, disons, la philosophie du langage versus la différence. Ce qui nous intéresse, c'est une sémiotique des valeurs différentielles, des valeurs internes au système. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est le rapport au monde. Alors ça dure depuis le Cratyle de Platon, comme vous savez. Le rapport au monde. Le langage n'est plus considéré comme un objet objectivable seulement, mais aussi comme une médiation vers le monde. Les mots et les choses, Foucault, voilà un titre tout à fait philosophique. Quid du langage en tant qu'il médie mon rapport à l'être, mon rapport aux choses. Quine, word and object. Typiquement, toujours la même chose. Le langage comme médiation vers. Bien. Donc là, c'est la dimension référentielle au sens très large du langage. Eh bien, s'agissant alors de jeter un pont à terme entre la polarisation sur la différence, le privilège intra-théorique de la différence, sémiotique post-saussurienne, et puis la polarisation sur le rapport au réel, sémiotique post-persienne, l'autre lignée. Les vilains, Maurice, Carnap et les copains, ceux que les Européens n'aiment pas trop voir, on ne peut pas tout raisonner à la fois. Enfin, s'agissant de jeter un jour un pont entre cette sémiologie qui est née deux fois, chez Saussure et chez Peirce, moi je remarque des choses intéressantes là-dedans. Parce que, vous saluez, et vous avez bien raison, le concept d'isotopie, la présence d'archisémèmes, lorsqu'il s'agit de déterminer ce que c'est qu'une bonne question. Autrement dit, lorsque vous examinez les facteurs sémantiques de la bonne sémantique de la bonne question, vous introduisez un concept sémiotique, l'archilexème. Serait-ce un pont et comment articulez-vous? Comment faufilez-vous au moins une proposition possible pour passer d'un univers à l'autre? Moi, ça m'intéresse directement de le savoir, avec peut-être une allusion un peu rapide sur les réseaux des graphes cycliques et votre tendresse pour cette dernière notion. Alors, j'ai une autre question pour Madame Golopentia. Quid de l'opposition entre dialogue et conversation chez vous, pourquoi vous ne faites pas la distinction en particulier, ou vous ne cherchez pas à la faire? Autrement dit, est-ce que dialogue a un sens fort en fait, mais distinct de conversation pour vous? Par ailleurs, j'ai été extrêmement intéressé par tout ce qu'apporte la notion d'histoire conversationnelle pour le point de départ, l'entrée en matière d'un dialogue que d'autres, travaillant sur des motifs, sur des modèles plus limités, suppose acquis. Question initiale, ils n'atteignent la question initiale que par les présupposés qui doivent être rendus communs. C'est une façon de faire l'impasse sur toute l'histoire en amont, point de départ de la conversation. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié l'apport que vous avez. Bon, j'ai terminé.
Excusez-moi, mais alors là, il va se passer quelque chose. Je crois qu'en bonne analyse conversationnelle, il faut bien se rendre compte que chaque fois qu'on parle un peu trop, on interdit aux autres de parler. Je m'excuse, Francis Jacques, c'est vrai qu'il faut poser des questions, mais quand même, on a un temps limité, et de deux choses l'une, ou on réduit les exposés, et ça, c'est général pour tout le monde, et alors, on fait une grande partie de discussion, ou bien alors, on se limite au minimum dans la question, et manifestement au minimum dans la réponse. Parce que là, j'ai quatre personnes qui vont demander. Il est 1h25. Comment voulez-vous qu'on y fasse? Excusez-moi, mais je fais le flic.
Pardon. Alors, je donnerai une réponse à l'écoute. J'ai quelque chose comme la distinction. J'ai dans la pensée une distinction qui ressemble beaucoup à la distinction dialogue-conversation que vous opérez. Seulement pour moi, de mon point de vue, le dialogue, ça n'existe qu'à l'état fragmentaire. Il y a des bribes de dialogue, il y a des fragments, des passages, des lueurs de dialogue. Et donc, pour moi, dans mon analyse, la façon dont j'ai aménagé mon espace théorique pour rendre compte de ces distinctions que je sens essentielles, c'est que j'ai cette description, cette allure conversationnelle, dans laquelle il peut y avoir un zéro au milieu, quelque chose qui équivaudrait, si vous voulez, à votre dialogue plus fragmentaire. Donc, il y a pour moi le concept de dialogue comme quelque chose qui advient, parfois, dans certaines conversations, rarement. C'est ça.
Il y avait beaucoup de choses dans votre question. Enfin, comme il y a d'autres interventions, je vous propose de vous répondre d'homme à homme, dans un dialogue, et non dans une conversation.
Ocelin,
j'ai une question à Madame Golopentia. À propos des deux variables X et Y, qui sont des variables supposées désigner des individus,
oui.
Est-ce que ça peut concerner d'ailleurs aussi Monsieur Rastier? Est-ce que vous avez envisagé l'hypothèse que l'une des deux variables ne reçoive pas une valeur par extension, mais par intention? C'est-à-dire qu'on a une variable qui désigne un individu, ce qui pose des problèmes, mais, et l'autre désigne ce que Fauconnier appellerait un rôle, c'est-à-dire le boucher ou bien le pharmacien ou que sais-je encore. Éventuellement même, peut-être, enfin non, ça c'est autre chose, c'est une autre question. Et puis, il y a un deuxième volet dans la question. Je crois que ça a un rapport. Quand vous avez parlé dans l'histoire conversationnelle de dialogue rapporté, quel est le seuil inférieur et supérieur à partir duquel on parle de rapport de dialogue? Par exemple, si quelqu'un commence une intervention en disant « certes, ceci, ceci, cela » et qu'il enchaîne, est-ce que ce qui va suivre le « certes » fait partie d'une intervention rapportée ou pas? Je pense à l'opposition entre, que fait Roulet par exemple, dialogique et diaphonique. C'est-à-dire, on peut faire parler la voix de quelqu'un d'autre dans son propre discours en prenant ou non en charge le propos. Alors, est-ce que vous avez utilisé des distinctions de ce type-là?
Donc, première question, la question de l'introduction du rôle dans la définition, dans la spécification de X et Y. Alors, je dirais, je n'ai pas pensé spécialement à ceci, mais en ce moment, il me semble, par exemple, que je peux introduire le concept de rôle, même pour les deux. C'est-à-dire, je peux avoir des histoires conversationnelles mornes, si vous voulez, et totalement inintéressantes, dans lesquelles les deux sont exclusivement ou presque dans des situations de rôle, et qui néanmoins introduisent certaines données, opèrent certains changements dans les conversations à venir. Donc, je n'exclus pas du tout la définition plutôt stricte, la spécification plus raffinée des sujets en présence, par le fait qu'ils vont prélever des rôles qu'ils vont maintenir jusqu'à la fin de l'histoire conversationnelle. Si c'est ça, non. Bon. Oui.
Non, pas de dialogue, s'il vous plaît.
Oui. Bon. Oui, je m'excuse. Alors, je passe à la deuxième et je vais essayer. Bon. Donc, la deuxième, le certes, non. Dans mon cas, je n'ai pas interprété des expressions de ce type-là comme étant des références à des conversations passées ou à des croyances communes, si vous voulez, qui pourraient être rapportées à des états conversationnels. Mais je pense que ça peut se faire, mais ça suppose un raffinement de l'analyse, que je n'ose pas assumer.
Vous avez une réponse, madame?
Je voulais faire une brève remarque à François Rastier. Vous avez fait une excellente revue des programmes de dialogue dans le domaine de l'intelligence artificielle, en passant par le paranoïde de Colby, le monde des cubes de Vinagrad et les autres. Et je crois que vous avez très bien dit que c'est toujours des programmes de dialogue qui sont sur un domaine restreint. Pour l'instant, je vois. Ce qui est étonnant, c'est que ces programmes n'ont jamais été, n'avaient pas de suite. Pour l'instant, on voit encore des programmes dans le domaine de acheter un billet pour aller de San Francisco à San Diego, plus compliqué, un dialogue plus compliqué, comment à Stanford Research Institute, comment réparer des instruments d'aviation, et peut-être encore des plus compliqués sur des réponses sur le contenu du texte. Mais je ne crois pas que quelque chose de révolutionnaire a été achevé dans ce domaine. Et je me demande, comme séméoticien, est-ce que vous voyez par quoi on pourrait, par où il faudrait approcher ce dialogue homme-machine et travailler dans quelle direction, surtout en France. Ça m'intéresse. Peut-être c'est une unfair question.
Non. Une petite remarque d'étiquette. Hein. Je veux dire, quand il s'agit de langue naturelle, c'est la linguistique qui s'en occupe. La sémiotique a renoncé à dire quelque chose des langues naturelles, et la sémiotique d'inspiration persienne se place entièrement dans la philosophie, la sémantique, la sémiotique d'inspiration jemslevienne s'y place aussi sans le dire. C'est toute la différence, elle est énorme. Mais si vous demandez à Eco qu'est-ce que vous faites, il vous répond maintenant, depuis 25 ans, je fais de la philosophie du langage. Bon. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que ce que j'ai fait, c'est de la sémantique, ce n'est pas de la sémiotique à mes yeux. Maintenant, il n'est pas vrai que tous les programmes travaillent sur un domaine restreint. Il y a le cas d'Elisa, qui justement ne représente aucun domaine sémantique, et c'est pourquoi elle se prête à tous les problèmes de l'interlocuteur. Hein. Ce qui se passe, en effet, c'est le développement des systèmes experts qui ont un domaine sémantique bien défini, qui n'est pas d'ailleurs structuré comme le domaine sémantique des langues, enfin, comme les domaines sémantiques homologues des langues naturelles. C'est tout le problème de la constitution sémantique de l'interrelation entre concepts dans une science, qui sont aussi des choses qui sont du sens. Et le problème de est-ce que c'est des connaissances, ça c'est un problème qui pour moi est second. Disons qu'il y a un autre problème. On va évidemment dans le sens de la restriction, et c'est une bonne chose. Et il n'y a qu'une intelligence artificielle au sens maximaliste du terme qui pourrait le pleurer. Mais enfin, maintenant que les déclarations maximalistes ayant eu leurs effets, ils ont eu leur crédit au début des années 60, on peut passer aux choses sérieuses, je crois.
Guillaume, c'est la dernière question.
Oui, je vais aller assez vite. Ça m'embête. Mais
très vite, pas assez.
Je vais aller très vite. C'est pour rester. Bon, premièrement, sur le fait que les maximalistes et les minimalistes soient maintenant dans un rapport dominant-dominé en faveur des minimalistes, ça, j'en suis pas très sûr. Non. C'est vrai pour l'intelligence artificielle qui travaille avec du langage, c'est beaucoup moins vrai pour les gens qui travaillent sur du problem solving, hein, et sur la résolution de problèmes, et notamment l'équipe de Richard. Bon, bien. Alors le deuxième point, un peu plus, Richard, Vincent. Alors le deuxième point, un peu plus polémique. Je ne sais pas si en fait ça appelle une réponse, mais peut-être demain. Le deuxième point, un peu plus polémique, c'est le suivant. Bon, moi je veux bien que chacun d'entre nous définisse son domaine, le ferme, et se donne finalement un certain type de regard et de méthode de travail. Je trouve même que c'est indispensable. Là où ça commence à me gêner, c'est quand le discours technique devient discours normatif. Et ça, c'est une chose que vous avez fait à un certain nombre de moments, c'est-à-dire que sous couvert de discours technique, vous avez énoncé un certain nombre d'exclusions, de fermetures, comme si le concept qui devenait une notion, c'était pas bien. C'était sale que ça devienne une notion. Moi, je trouve que ça, c'est hyper sclérosant pour un travail qui, qu'on le veuille ou non, dans le domaine de la communication, va devenir de plus en plus pluridisciplinaire. Alors, je voudrais pas être mal interprété. Hein. Je suis tout à fait d'accord pour qu'à un moment donné, un honnête technicien que nous sommes tous, nous définissions notre objet technique. Là où je suis moins d'accord, c'est à partir du moment où cet objet technique devient un moyen normatif d'exclusion. Et je dirais pour terminer que ça, c'est un discours extrêmement fréquent dans toutes les structures organisationnelles hiérarchisées selon des modes de pouvoir.
Bon, alors je rassure l'intervenant. En ce qui concerne le pouvoir, je peux vous dire que je suis tout à fait au bas de l'échelle.
Hein. Non, mais c'est pas le problème. Non.
Alors, bon, je reviens. Quant à la différence entre maximaliste et minimaliste, elle passe, je l'ai dit, dans la cervelle de chaque informaticien. Hein. C'est pas des groupes hein, qui s'opposent. Quant au discours technique qui devient normatif, c'est le devoir d'un linguiste de parler de sa discipline. Je n'ai absolument pas émis de propos normatifs sur aucune autre discipline. J'ai émis un propos normatif sur l'usage sauvage en linguistique de concepts venant de la philosophie et qui sont employés de façon à la fois naïve, défaite de leur système d'origine, et dans ce cas-là, il s'agit bien d'une... de la part de ceux qui les ont créés, c'est une régression, de la part de ceux qui les utilisent par rapport à rien, c'est peut-être une progression, mais... Alors, que faire de l'interdisciplinarité? Je suis pour une interdisciplinarité consciente des limites de chaque discipline. Je suis, pour ma part, très réticent devant une interdisciplinarité sans principe, c'est-à-dire une sorte d'interdisciplinarité faussement conviviale qui, sous prétexte qu'on partagerait le même terrain d'approche, en viendrait à confondre les domaines. Hein. Et je rappelle qu'aucune discipline ne peut en valider une autre, et encore moins en fonder une autre. Et qu'une discipline se constitue précisément par ce qu'elle a défini ses propres moyens de validation. Et si on va contre ça, à ce moment-là, on dénie à la philosophie une de ses fonctions majeures qui consiste à produire une régulation théorique des rapports entre les disciplines scientifiques, ce que Francis Jacques appelait une force de proposition. Et je pense que l'interdisciplinarisme sans frontières est un des symptômes, non pas seulement une cause, un des symptômes des difficultés qu'on rencontre les sciences humaines. Hein. Et cela dit, je suis pour la porte reste ouverte à la négociation.
Non, je te laisse pas parler.
Oui, y compris l'éthologie animale.
Bon, je vous remercie et je m'excuse d'avoir été aussi brutal.
5 bonnes minutes de retard. Je donne la parole à Madame Zarka, de l'Université de Paris 10, Nanterre.
Si je vous dis, faites-moi confiance, vous pouvez vous méfier. Si je vous dis, ne me faites pas confiance, peut-être serais-je plus crédible. Si, en revanche, je vous dis, moi, je vous fais confiance, c'est alors que vous pouvez me faire confiance. Autrement dit, les stratégies du conseil et de la confiance sont très liées. Et chacune des propositions que j'ai énoncées correspond à une stratégie différente. Alors, de temps en temps, les stratégies du conseil vont rencontrer des stratégies de confiance, mais alors à ce moment-là, c'est risqué. Parce que les stratégies de la confiance qui viennent au secours du conseil compromettent en général l'effet qu'elles visent. La confiance n'est pas un processus unilatéral, et le « faites-moi confiance », c'est une sollicitation d'unilatéralité. Alors, la relation de conseil se définit traditionnellement comme une relation de confiance. Mais tant le conseil que la confiance peuvent altérer, voire pervertir la relation. Et le caractère paradoxal de ces deux concepts, confiance et conseil, n'est peut-être pas étranger à ce phénomène. Bon, alors, personnellement, c'est une définition personnelle, je distingue le conseil de la conversation, l'entretien de conseil de la conversation, dans le sens où il y a un objectif, et un objectif bien défini, c'est-à-dire la résolution d'un problème. Je commence à peine une recherche sur les interactions de confiance dans les entretiens de conseil, mais donc je vais vous livrer plutôt des interrogations que des résultats d'études, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le conseil et pas encore vraiment sur la confiance. J'ai travaillé sur des discours et pas sur des interactions directes. Cependant, j'estime que les discours véhiculent des relations, une forme de relation, et c'est la raison pour laquelle je fais cet exposé. Donc, mon exposé va référer, s'appuyer sur des conseils éducatifs à la radio, en réponse à des lettres d'auditeurs. Je me suis placée, disons très volontairement, dans une perspective de discours unilatéral pour montrer la force de la définition de la relation dans le texte. Donc, dans un premier temps, je vais très rapidement, si vous voulez, rappeler de scolairement les définitions du conseil et toute l'ambiguïté attachée à ce terme, à la suite de quoi je présenterai un panorama d'une recherche que j'ai faite, d'un travail d'analyse que j'ai fait il y a très longtemps sur des discours éducatifs. Le conseil requiert la confiance. Il va instaurer et maintenir son pouvoir à travers la confiance. Donc, je l'ai déjà dit, s'il l'a sollicité, cette confiance, il va la dénaturer. Le conseiller est dans une position très délicate de celui qui doit créer un climat de confiance sans l'appeler. C'est une situation extrêmement équivoque. Si vous voulez, je vais faire comme Monsieur Cognier hier, je me présente, j'ai beaucoup plus travaillé sur le conseil, enfin toutes mes recherches portent sur le conseil, je travaille beaucoup auprès des conseillers et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette recherche sur les discours à la radio. C'est en fonction de mes préoccupations, disons, qui sont des préoccupations de formation. Donc, le conseil, si vous voulez, je vous épargne des définitions savantes, c'est un avis qui engage à faire ou ne pas faire quelque chose. La grande encyclopédie du 19e siècle donne une définition beaucoup plus large, à savoir parole que l'on adresse à quelqu'un pour diriger sa conduite sans intention de le contraindre. Bon, alors si vous voulez, dans cette définition, je l'aime bien cette définition parce qu'elle marque l'ambiguïté de ce phénomène conseil dans la mesure où, si vous voulez, le paradoxe y est contenu. C'est une influence dans la liberté. Et en même temps, cette définition de l'encyclopédie marque, disons, quel est, combien il est difficile de différencier le conseil d'une direction de d'une direction de conduite, donc le conseil d'une direction de conscience. Et en fait, le poids de la direction de conscience va peser très lourd, va lourdement hypothéquer la situation de conseil et de conseiller, du conseiller professionnel, notamment du conseiller psychologue. Si vous voulez, le terme conseiller est très chargé, très connoté. Historiquement, l'origine des conseillers, c'est les sénatoresses, et c'est-à-dire les sages de la nation. Et puis progressivement, ce terme s'est complètement perverti. C'est devenu, disons, on parle de conseiller militaire dans telle ou telle contrée. Je ne sais pas, conseiller militaire, je ne sais pas où. Mais à chaque fois, c'est conseiller. Hein, c'est pas, ça cache bien des activités un peu troubles. Lorsque j'ai commencé à faire cette étude, j'ai regardé dans l'annuaire figurer sous la rubrique de conseiller énormément d'associations privées, dont une société qui s'appelle le Conseil des sociétés de bidon. Alors ça m'a tellement amusée que je l'ai bien retenue. Pour marquer, si vous voulez, le fait que ce concept plein, mais en même temps qui peut avoir une certaine vacuité. L'ambiguïté du conseil porte également sur le fait que la définition, enfin, sur des conduites, sur des actions, et que lorsque j'ai travaillé sur les conseils dans des journaux, dans des hebdomadaires, je remarque qu'ils portent beaucoup plus sur des manières d'être, des attitudes, sur des caractéristiques de la personne, plutôt que sur des conduites. Donc, ça augmente encore l'ambiguïté. Disons que... je veux dire que l'ampleur de la notion de conseil et son élasticité permettent donc tous les glissements et l'enveloppe paradoxale du conseil admet et favorise la coexistence des contraires. Alors, si vous voulez, je vais venir à la position du conseiller, où le conseiller est astreint à une attitude paradoxale, c'est-à-dire qu'il doit être en même temps dedans et dehors, détaché et impliqué. Il doit investir le problème et en même temps ne pas en rester trop près. Un acte de conseil, donc, suppose d'être à la fois détaché et impliqué, et nous allons voir que les situations qui tolèrent le paradoxe du conseil, influencer, laisser libre, le dissipent, alors que les situations qui tentent d'y échapper le resserrent et enlisent dans le paradoxe. C'est Anzieux qui disait que pour dissiper le paradoxe, mieux vaut y entrer. L'intolérance, maintenant je vais passer à la confiance, l'intolérance à une situation paradoxale va se manifester par une production accrue de paradoxes, et plus précisément dans le conseil, par un appel à la confiance et parfois même son exigence. Dans le conseil, tout se joue sur la confiance. Cependant, dans le conseil, la confiance n'est pas la même des deux côtés. La confiance existe lorsque celui qui donne le conseil, c'est ma définition, c'est lorsque celui qui donne le conseil apparaît compétent et crédible à celui qui le reçoit, et lorsque celui qui le reçoit est considéré comme une personne responsable par celui qui le donne. Par responsable, j'entends dans le cas présent, en mesure de comprendre le bien fondé du conseil et maître de ses actions, donc libre de le suivre ou ne pas le suivre. Donc vous voyez, on fait confiance à l'autre si on le considère comme libre, et donc libre d'accepter ou ne pas accepter notre conseil. Mais aussi de comprendre son bien fondé. Ça veut dire qu'il y a une exigence pour le conseiller d'être consonant et d'être congruent par rapport au message qu'il transmet. Donc, l'un respecte la liberté de l'autre et l'autre juge le premier crédible. Alors, si vous voulez, je distingue bien la confiance de l'idéalisation et de l'admiration ou de la fascination et la confiance de la crédulité, parce que ça peut jouer aussi dans le conseil. On n'a pas vraiment confiance, on est un peu crédule ou on peut être naïf ou fasciné par le prestige du conseiller. À ce moment-là, c'est pas une véritable relation de confiance. La confiance s'institue donc lorsque l'un respecte la liberté de l'autre et que l'autre juge le premier crédible. La confiance s'institue dans ces deux sens. Cependant, ce genre de relation constitue une espèce de toile de fond à l'intérieur de laquelle les interactions sont fluctuantes. C'est-à-dire que ce n'est pas une constante, la confiance. En écoutant certaines interviews de conseil, on voit des relâchements et puis des hauts et des bas. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je préfère étudier les discours conseil avant d'étudier les interactions. Ma prochaine recherche. Donc, ce que je dis, c'est que dans un entretien de conseil, la confiance est un phénomène beaucoup plus instable que dans des relations interpersonnelles. Dans les relations interpersonnelles, c'est une constante qui connaît quelques fluctuations, mais elle fait partie des règles du jeu interpersonnel, la confiance ou la méfiance. Donc, le travail que je présente élimine l'aspect directement interactif, mais je n'évacue pas les dimensions relationnelles du discours. C'est-à-dire que l'absence d'interaction directe permet de saisir les fondements de la confiance et plus précisément ses liens avec la demande. Alors, si vous voulez, j'ai catégorisé les demandes de conseil sous trois rubriques très grossières. Ce que j'appelle une demande d'aide autonomie, une demande ambiguë, et une demande coup de pouce, ce que j'appelais le coup de pouce. Alors là, je vais citer un grand roi. « Ceux qui ne veulent prendre en rien conseil de ce qu'ils font, ne font presque jamais rien de ce qu'ils veulent. » Cette majestueuse affirmation de Louis XIV figure bien les fonctions du conseil autonomie, qui correspondent à une recherche d'élucidation et à un souci de prendre du recul par rapport à son problème. La Rochefoucauld, lui, est plus sceptique. Il estime que ceux qui demandent des conseils le font plus souvent pour être applaudis que pour être éclairés. Ce point de vue correspond à une demande ambiguë. Dans les demandes ambiguës, on a une masse, de problématiques, que ce soit on est soumis, on cherche une approbation, on cherche une complicité, on cherche une connivence. Les demandes ambiguës sont toujours manipulatoires. La troisième catégorie de demandes, alors c'est beaucoup plus prosaïque, ce sont des demandes qui obéissent à des demandes situationnelles, c'est-à-dire des demandes qui correspondent à une urgence, à un état de crise et à un besoin d'avoir un coup de pouce, d'être poussé égard à la situation. Donc, dans le corpus que je présente, il y a une complémentarité tout à fait remarquable entre les demandes et les réponses. Et pourtant, le demandeur n'est pas là. Donc, je tiens la gageure de présenter cette problématique de la réciprocité ou de la complémentarité dans la confiance-défiance à partir de discours unilatéraux. Bon, alors mon corpus est constitué, là, ça va vous paraître très, très, très mégalomane, mais j'ai fait un travail énorme, mais un travail un peu grossier, c'est-à-dire j'ai analysé une quarantaine d'émissions de radio, non pas sous l'angle linguistique, mais exclusivement à partir des contenus. J'ai analysé ça sous un angle exclusivement thématique, donc de manière assez artisanale, en comptant plutôt le nombre de conseils, le nombre d'arguments, la proportion entre les deux, etc. Si vous voulez, mon but initial était surtout de voir les valeurs que véhiculait Alors, si vous voulez, j'anticipe les critiques, parce que je sais que ma méthode est assez artisanale, est un peu frustre. Cependant, grâce à cette... Enfin, c'est une grosse batterie, parce que grâce à cette méthode, j'ai pu distinguer trois grandes catégories de discours conseil. Mon corpus porte sur des émissions enregistrées il y a fort longtemps. Un clinicien répondait à des lettres d'auditeurs qu'un journaliste lui présentait. Alors, je vous demanderai toute ressemblance avec des personnages réels et pure coïncidence. J'ai essayé de voir comment la confiance était inscrite dans le texte et à partir de la demande. J'ai analysé et j'ai extrapolé aussi l'attitude du clinicien vis-à-vis de la demande et parfois même vis-à-vis du correspondant. Et j'ai, à travers le texte de la missive, essayé de définir les attentes du correspondant et plus précisément les a priori de la confiance qu'ils témoignent et qui vont jouer à leur tour dans la manière dont les a priori de la confiance qui se font jour dans la manière dont ils présentent sa requête, en pensant que ces a priori vont régir la confiance que l'émetteur clinicien lui accorde. Bon, donc je vais commencer par vous présenter mes textes. Ça va être un petit peu long. J'ai différencié les conseils univoques. Il y a la dissuasion et la persuasion. Et puis, les conseils mixtes où sont mélangés persuasion et dissuasion. Donc, la question de la confiance ne se pose pas du tout de la même manière dans la dissuasion et dans la persuasion. La confiance est nécessaire quand il y a une alternative, quand il y a le choix. Mais quand nécessité fait loi, bon, c'est la réalité qui impose et pas le conseiller qui propose. Si vous voulez, c'est comme ça que je résumerai les textes dissuasifs. Les textes dissuasifs mettent l'autre devant une certaine réalité. Alors, les demandes, je présente la dissuasion. Dans la dissuasion, la marge de liberté apparaît faible ou nulle. La demande ne relève pas de l'aide à l'autonomie, mais d'une aide devant une action ou une conduite à tenir dans une situation qui vous dépasse. Devant un problème actuel, parfois brûlant, il y a désir d'être poussé. L'autonomisation est absente ou hors champ, de même que l'ambiguïté. Les demandes toujours précises sont toujours clairement formulées. Ça, la formulation de la demande est très très importante parce que dans les conseils ambigus, la demande est toujours vaseuse. Alors, les conseils dissuasifs diffèrent, la structure du discours diffère selon qu'il s'agit de prévenir des situations regrettables ou nocives, ou bien d'arrêter de mettre fin à des habitudes relationnelles qui sont préjudiciables aux enfants. Bon, alors je vais parler très rapidement des conduites éventuelles. Quand une situation est très bien localisée et localisable, le conseil préventif est lapidaire. Par exemple, dois-je envoyer mon enfant de 2 ans et demi en vacances chez ses grands-parents au Portugal ? Le conseil trop tôt est fondu dans l'argument. Des explications suivent, mais l'essentiel est dit. Bon, alors j'ai fait des distinctions sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, sur les conduites non localisables. De toute façon, la relation signifiée, c'est celle d'un désaccord sur le problème. Et si le demandeur apparaît acquis d'avance, le discours est moins tranchant que s'il semble tenir à son projet. Pour des conduites habituelles ou actuelles, l'argumentation est beaucoup plus développée. Parce que pour prévenir, on peut ordonner. Mais en réalité, ce qui se passe dans la dissuasion, c'est que pour stopper, il faut interdire. Et j'ai fait une différence entre les deux. Parce que la dissuasion signifie détourner quelqu'un de quelque chose. C'est pas facile lorsque l'habitude est déjà implantée. Alors, j'ai distingué des textes selon qu'ils concernent des erreurs éducatives ou bien lorsque il y a des situations dangereuses ou des attitudes dangereuses. Des simples erreurs éducatives ou des maladresses relationnelles, le désaccord porte sur les comportements, il y a très peu de jugement sur la personne. La réponse est claire, directe, catégorique et apporte des explications et interprétations fournies et tentent à notifier une attitude claire, directe et catégorique que les parents doivent adopter avec leur fillette. On dit qu'ils cessent eux-mêmes de jouer à la poupée avec cet enfant. Enfin, c'est-à-dire que... Quand il s'agit d'attitudes jugées dangereuses, les explications sont encore plus abondantes et les conséquences fâcheuses sont mises en avant. Je vais sauter. Lorsque la prescription a un caractère pénible, les modalités du discours ne sont pas du tout les mêmes que lorsqu'il s'agit d'attitudes où les parents mettent l'équilibre de l'enfant en danger. Lorsqu'il s'agit d'attitudes dangereuses, les textes ne s'encombrent pas de subtilité. Si la dissuasion vient en réponse à un problème un peu trouble, tel que la promiscuité, partager le lit des parents par exemple, ou bien exposer la nudité, Il se produit, on remarque très peu de conseils et un très très grand nombre d'arguments dans une argumentation très fouillée. Le risque pathogène est mis en avant et toutes les informations tendent à montrer le danger de ces comportements pour l'équilibre actuel de l'enfant et pour son avenir. Autrement dit, là, apparemment, le conseil va à l'encontre du désir des parents et, faute de pouvoir les motiver pour contrecarrer leur désir, ben, faut faire peur. Et c'est ce qui se passe dans la dissuasion. Dans la dissuasion, donc, d'une manière générale, on relève peu de formules apaisantes, beaucoup de formules inquiétantes. Le message est « attention, arrêtez ». L'essentiel est d'empêcher ou de mettre un terme à... on ne cherche pas à convaincre, mais à provoquer une réaction. Dès lors, le conseil se rapproche de la suggestion, où il est payant d'impressionner le locuteur, de le secouer et parfois de l'effrayer. On sort du jeu paradoxal avec des jugements assez forts, dans un texte où l'impératif devient la règle et où le conseil se transforme en un ordre qui rétablit l'ordre des choses. Le statut du conseil est ainsi instauré, restauré, à travers un principe de réalité dont le clinicien se fait le porte-parole. Alors ce discours, alors la récession qui est signifiée, c'est vraiment un désaccord sur les comportements, mais selon la gravité de la situation et le degré de responsabilité des intéressés, le désaccord va devenir réprobation, voire blâme des attitudes de la personne, ou blâme de la personne elle-même, surtout si elle est complaisante ou complice. Souvent, on relève des caractérisations négatives. Dans un cas, il est question d'une mère qui gâte trop ses petits et s'en remet après à l'école pour leur éducation. Dans un autre, la mère n'était plus une adulte, vu l'état dans lequel elle s'était mise. Dans un autre encore, on évoque le caractère compliqué du demandeur. Dans un autre, enfin, du danger qu'ils font courir à leurs enfants. Il n'y a pas de considération positive du locuteur. Dans la plupart de ces cas, la demande apparaît soit naïve, soit immature. Il y est répondu de manière complémentaire, en mettant franchement les locuteurs devant leurs responsabilités. Partout, le destinataire apparaît sinon fautif, du moins comme quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de la situation. L'insistance sur les effets nocifs dénote une certaine défiance à l'égard du receveur. La relation signifiée serait du registre « je ne vous fais pas confiance ». Cette sévérité sans doute rassurante, structurante aussi, est peut-être le seul moyen de créer paradoxalement un climat de confiance en provoquant l'autre par une défiance manifeste. Le paradoxe est ainsi récupéré. En ne vous faisant pas confiance, je vous fais confiance. Nous postulons que c'est la seule manière pour la dissuasion de rester conseil, d'être autoritaire, de reprendre un statut de pouvoir, étant donné que le conseil est un pouvoir sans statut. Maintenant, je vais passer à une deuxième rubrique de des conseils univoques, à savoir la persuasion. C'est là où le conseil prend tout son sens. Les questions sont très clairement formulées, là encore, et le problème très circonscrit. Les domaines ne sont pas du tout du même ordre que précédemment, et la position des correspondants non plus. Ils ne sont acculés ni par une urgence, ni par une situation de crise. Sans être acquis d'avance, le correspondant apparaît néanmoins motivé à changer, soucieux de progresser. J'ai regroupé trois catégories de demandes. Des demandes de conseil qui concernent les questions matérielles, qui touchent à l'organisation de la vie familiale, des demandes d'amélioration de fonction ou d'optimisation de rôle, et enfin des demandes d'ordre personnel. Alors, les caractéristiques de l'organisation... Alors, il y a des caractéristiques communes de la persuasion, mais les caractéristiques communes de l'organisation matérielle sont... l'aisance dans la concrétisation d'une ligne de conduite. Vous avez dit que le conseil, c'est une direction de conduite. Donc, il faut savoir le concrétiser. Alors, deux, c'est les modalités de simplification, de visualisation presque, à force de détails frappants, et ce que j'ai appelé des réponses du tac au tac, où à l'implicite de la demande, il y a implicite de la réponse. Alors je passe à l'organisation matérielle, quel que soit le niveau de la conduite envisagée, même s'il s'agit d'un problème matériel, la réponse réfère à une valeur ou à un système de valeurs, c'est-à-dire un principe éducatif. Je vais vous citer un exemple. L'émetteur est très congruent, très, très consonant là. Un exemple, un père s'interroge sur la ponctualité au repas, ce sont des exemples très triviaux. Il lui a répondu qu'il est inutile de l'exiger. Le conseil est le suivant. Le mieux est que les parents suivent leur rythme. Ceux qui ne suivent pas, tant pis, ils viennent quand ils ont faim, les enfants. Mais il ne faut pas réchauffer les plats qu'ils mangent, alors ce qu'il y a. C'est ce dernier détail qui va éclairer la suite. Parce que, ensuite, l'émetteur ajoute, au bout de quelque temps, les enfants se sentiront respectés parce que les parents ne font pas de scène pour qu'ils viennent au repas, mais changent de rythme, mais ne changent pas de rythme pour eux. Il est ainsi entendu que les enfants sont libres et les parents fermes. C'est-à-dire que l'instrumental contribue ici à mieux faire comprendre le bien fondé de la mesure. J'ai également relevé l'inverse, mais je vous épargne les textes parce que il y en a effectivement beaucoup. Le conseil instrumental permet de visualiser des modalités de réalisation. Les textes sont très souvent imagés et les images permettent une simplification qui ne dénature pas la complexité des problèmes. Je vais vous citer un exemple qui m'a paru là très frappant de la persuasion. C'est l'exemple suivant. Une mère hésite à répondre à une question de sa petite-fille, 6 ans, sur ce qu'elle appelle le passage de la graine des testicules de l'homme au ventre de la femme. Alors ça, c'est la demande de la femme. Même si l'enfant sait, dit-elle dans la lettre, même si l'enfant sait comment la naissance se passe, la mère a peur de choquer l'enfant. Le conseil de lui parler est immédiat. La manière de la faire est ensuite indiquée. Il est recommandé à la mère de retourner la question et de le faire en ironisant, mais sans se moquer. « Qu'est-ce que tu crois ?» par l'oreille ou par le nombril, et d'ajouter « Réfléchis, tu me le diras lorsque tu auras trouvé ». Cette manière de renvoyer la question dans un langage accessible aux enfants a un double avantage. Elle permet à la mère de différer une réponse délicate et laisse à l'enfant une ouverture sur un savoir qu'elle a déjà ou qu'elle pressent. L'idée sous-jacente à ce conseil, c'est que l'enfant sait déjà. Une telle réponse facilite la relation mère-enfant puisqu'elle signifie une acceptation du savoir de l'enfant. L'originalité de la procédure est la mise en scène d'un dialogue imaginaire où l'on prévoit le mot qu'il faut prononcer au cas où la petite fille ne saurait rien. Donc, si la petite fille ne répond pas, il suffira de dire union sexuelle. À la suite de quoi, il recommandait à la mère de démystifier le caractère dégoûtant autour du pipi-caca en présentant l'amour comme quelque chose de beau. Le dialogue ainsi imaginé s'articule autour d'un mot purifiant qui peut entraîner une certaine distanciation. Cela permet de simplifier un problème, à mon avis, très complexe, c'est-à-dire la gêne de certains parents à parler de la sexualité. Cela permet aussi de faire passer une information plus générale. Ce texte est également illustratif de ce que j'ai appelé une réponse au tac au tac, c'est-à-dire une réplique au même double niveau que la demande explicite et implicite. L'explicite